dans Romains chapitre 5, verset 5, il est dit quelque chose par rapport à l'amour de Dieu, par rapport à l'espoir aussi. On est dans un monde qui est totalement dans le désespoir. Quand on regarde l'actualité, je vous mets au défi pendant une heure de regarder les informations et d'en sortir tout joyeux, tout rayonnant de joie. C'est pas comme ça qu'on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie, c'est ce qu'on a chanté, quand on tourne vers Dieu les regards. Celui qui tourne vers Dieu les regards, il est rayonnant de joie. Celui qui tourne les regards vers BFM TV, il va pas sortir rayonnant de joie. Il va sortir en dépression. Et c'est sûr que quand on entend toutes les nouvelles qui se passent dans notre monde, on sent qu'on a besoin d'espoir. Et l'amour de Dieu, il est fait de telle sorte que ça peut ranimer l'espoir dans notre vie. Regardez ce qu'il est dit. Romains chapitre 5, verset 5. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Vous avez remarqué cette expression qui est donnée dans cette parole, c'est un verset qu'on connaît. Christ est mort pour nous, et c'est une preuve. Dieu prouve son amour en ce que Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu, il s'est prouvé déjà de cette manière-là, quand on considère la croix, quand on considère aussi le ciel, parce que Jésus n'est pas resté sur la croix, il est maintenant dans le ciel, il est à la droite de son Père, et il intercède en notre faveur, mais Dieu se plaît à prouver son amour, et des fois il y a des situations dans nos vies où on perd un petit peu de vue la réalité que Dieu nous aime, et on a besoin d'ancrer notre foi dans cette réalité, que l'amour de Dieu, il est présent, il est pour aujourd'hui, il est pour nous soutenir. Et ce matin, je voudrais voir de manière très simple trois choses qui sont les preuves de l'amour de Dieu. Et on va tourner quelques pages jusque dans Romains chapitre 8. Et il y a plusieurs versets qui ont été cités dans les prières. Vous allez les reconnaître. Et il y a des promesses merveilleuses dans ce passage de Romains. Romains chapitre 8, verset 28, on peut lire. On va lire jusqu'à la fin du chapitre. Et vous allez remarquer toutes les choses qui correspondent à ce que fait l'amour de Dieu pour nous. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Vous avez remarqué, toutes les fois, il est question de l'amour de Dieu, de celui qui nous a aimés, et c'est véritablement la pensée du Seigneur ce matin, que nous puissions réaliser que Dieu nous aime, malgré les difficultés, malgré les moments où c'est compliqué. Et la première de ces choses qui nous est donnée, c'est dans le verset 28 qu'on la trouve, la première preuve de l'amour de Dieu, c'est que Dieu, il a un plan pour nous, il a un plan d'amour pour nous. Nous sommes dans un projet d'amour de Dieu, pour nous, et c'est important de le réaliser. Quand on lit rapidement ce verset, des fois on entend des gens qui disent « Ah, de toute façon, toutes choses vont concourir à ton bien, ça va aller, t'inquiète pas. » Et on peut faire un raccourci, mais c'est pas ce que dit la parole de Dieu. On regarde autour de nous, de toute façon, on le voit bien. que toute chose concourt pas forcément au bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu va s'occuper de manière particulière de celui qu'il aime. Dans ce verset, il y a une condition à ce que nous soyons au centre du plan de Dieu. Bien sûr que Dieu aime tous les hommes. Il a donné son Fils pour tous les hommes. Mais tous les hommes ne saisissent pas cette vérité. Tous les hommes ne rentrent pas dans cette vie, dans ce projet d'amour. Mais nous qui aimons le Seigneur, nous faisons partie de ce projet-là. Et c'est quelque chose qui nous rassure quand nous savons que même dans les moments difficiles, nous sommes au centre du plan d'amour de Dieu pour nous. Même les choses que l'on ne comprend pas dans nos vies contribuent à ce que nous soyons dans ce plan d'amour pour nous. Et c'est vraiment intéressant de réaliser que cette condition, c'est simplement qu'on aime le Seigneur. Aimer Dieu, c'est quoi? Est-ce que ça suffit de dire « Seigneur, je t'aime » le dimanche matin? Est-ce que c'est ça, aimer Dieu? Vous qui êtes amoureux, est-ce que c'est bien de dire « je t'aime » c'est bien quand même. Mais est-ce que c'est suffisant? Réfléchissez à un fiancé qui est là, qui dit à sa fiancée tous les jours « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et puis, ils ont convenu d'un rendez-vous la semaine d'après. Ils peuvent pas se voir avant parce que pour toutes sortes de raisons. Et puis la semaine d'après, un texto qui dit, le fiancé, il dit à sa fiancée, ah, désolé, je suis trop fatigué. Ah, désolé, je dois faire des courses. Désolé, je suis trop occupé. Il y a trop de routes à faire, on pourra pas se voir ce moment-là. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce qu'elle peut, la fiancée, remettre en question son amour? Mais l'amour, c'est quelque chose qui agit, qui se prouve. Dieu l'a prouvé, son amour. Il n'y a pas besoin de remettre en question l'amour de Dieu. Dieu l'a déjà prouvé. Et Dieu va encore le prouver. Il le prouve à chaque fois qu'on lui fait confiance, à chaque fois qu'on réalise qu'il prend soin de nous, toutes les grâces qu'il nous communique chaque matin, on réalise que Dieu nous aime. Mais c'est à nous maintenant de prouver notre amour. C'est pas suffisant, les paroles. Et le problème qui se passe, c'est que souvent on se contente des paroles pour Dieu en disant « je t'aime ». Et puis, peut-être on ne lui manifeste pas à Dieu notre amour. Ou alors, on aime Dieu, on lui dit « Seigneur, je t'aime !» Mais on n'aime pas notre frère. Jean, il a dit, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère, vous savez ce qu'il est? Un menteur. C'est quand même fort. Ça veut dire que je peux avoir une communion avec Dieu, mais si j'ai pas une communion avec mes frères et mes sœurs, je suis un menteur. Vous imaginez? Et c'est pas le pasteur qui le dit, hein. Vous lisez dans 1 Jean, lisez cette épître et vous verrez que l'amour doit être quelque chose qui se vit de manière pratique. D'abord pour Dieu, bien sûr, et puis de toute manière, parce que des fois c'est des combats d'aimer notre frère ou notre sœur, parce que peut-être qu'il a un caractère particulier, mais quand on est rempli de l'amour de Dieu, lui, Dieu, il aime tous les hommes. Alors forcément, il nous communique cet amour, et cet amour-là, il déborde autour de nous. Regardez dans le verset 5 de ce chapitre, il y a question de justement un de ces aspects qui nous montre qui sont ceux qui aiment Dieu. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Est-ce que vous voulez que Dieu répande sa vie et sa paix dans votre vie à vous? Amen. Il y en a deux qui le veulent. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Non, on le veut tous. Que la vie et la paix soient communiquées à notre vie. Mais comment ça se passe? Mais il faut que s'affectionner aux choses de l'esprit. Et ça se passe quand je vis selon l'esprit. Quand j'aime les choses qui concernent Dieu, quand j'aime les choses qui concernent le royaume de Dieu, quand j'aime les personnes aussi qui sont devenues mes frères et mes sœurs, quand je réalise tout cela, quand j'ai l'affection pour les choses de l'esprit, alors je suis quelqu'un qui aime Dieu. On passe trop souvent, trop rapidement sur ces versets en disant « mais de toute façon, j'aime Dieu, oui, je dis tous les dimanches matin que je l'aime, donc Dieu va faire concourir toutes choses à mon bien. » Mais non, moi je vous dis que non, c'est pas suffisant les paroles. Parce que si dans ma vie j'affectionne les choses de la chair, pour être plus pratique, si je suis charnel, si je m'occupe des choses de ce monde davantage que des choses de Dieu, regardez ce qu'il est dit, l'affection de la chair c'est la mort. Et c'est pour cela qu'on comprend, quand on regarde autour de nous, combien de chrétiens, Combien de gens qui disent aimer Dieu sont en train de mourir à petit feu quelque part. Au lieu d'avoir cette vie épanouie, la vie, la paix, la grâce de Dieu sur leur vie, et quelque chose qui donne envie de leur ressembler, ben on trouve le découragement, on trouve des fardeaux pesants sur les épaules, on trouve des visages tirés. Ça ne veut pas dire que des fois on a des moments où on est fatigué, c'est pas ça dont je parle. Mais il y a des personnes qui portent ça pendant des années et des années, alors qu'ils disent qu'ils aiment Dieu. Mais comment ça se passe les choses? Est-ce que Dieu ne fait pas concourir toutes choses? Oui, mais au bien de ceux qu'il aime, au bien de ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, au bien auprès de ceux qui ont l'amour pratique pour Dieu. Et c'est intéressant de réaliser que le Seigneur nous invite à rentrer dans cette vie-là. Affectionnez-vous aux choses de l'esprit. Et quand on se repent, qu'est-ce qui se passe? On réalise que notre vie passée, elle était mauvaise, et on réalise que la vie que Dieu nous présente, elle est bonne pour nous. Et alors on dit, Seigneur, je renonce à cette vie passée, et je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, et je veux m'affectionner à ces choses de l'esprit, je veux m'affectionner à ton royaume, je veux chercher ta justice en premier. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Seigneur nous met sa paix dans notre cœur. Mais est-ce qu'il faut se contenter de se repentir il y a 20 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière? Ou est-ce qu'il faut pas encore aujourd'hui dire, Seigneur, je veux te demander pardon, peut-être que j'ai pas veillé. Et aujourd'hui, je ne m'affectionne plus aux choses de l'esprit. Je l'ai vécu pendant un temps, mais je veux revenir. Est-ce que c'est pas une bonne prière à faire? Dire, Seigneur, permets-moi de me détourner des choses de ce monde qui sont en train de me corrompre. Parce que c'est ce qu'il est dit, quand je m'affectionne aux choses de la chair, quand je fais passer mes désirs charnels en premier par rapport à la volonté de Dieu, alors, il y a la mort qui est procurée à ma vie. Et que je le veuille ou non, c'est comme ça, c'est une loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, c'est celui qui nous donne la capacité, qui nous donne l'opportunité de rentrer dans ce plan, dans ce projet de grâce. Et c'est vraiment important de réaliser ces choses. Regardez au verset 13, tout ce chapitre 8, il nous parle de cette réalité. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Il parle à qui, Paul? Il parle à qui? Bon, il parle pas des Romains, mais il parle surtout à des chrétiens. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en nous, nous donne ce témoignage à l'intérieur dans notre cœur que nous sommes l'enfant de Dieu. Et quand on est un enfant du Seigneur, alors forcément, on s'affectionne aux choses qui concernent le royaume de Dieu, les choses qui concernent notre Père. Quand Jésus, il était dans le temple, vous savez, Joseph et Marie sont venus le voir, ils le cherchaient partout, ils ne savaient pas où il était passé, ils l'ont trouvé dans le temple. Et il leur a dit quoi? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et nous pouvons dire la même chose aujourd'hui, parce que nous sommes adoptés. Nous sommes adoptés. Dieu est devenu notre Père. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Que le Dieu qui est tout puissant, celui qui a créé le ciel, la terre, l'univers, il est devenu notre Père. Toutes choses sont dans sa main et toutes choses sont à notre disposition si nous nous laissons conduire par l'Esprit. Toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime, ça veut dire toutes choses concourent au bien de ceux qui lui obéissent. Aimer, c'est obéir aussi. Le vrai amour, c'est l'obéissance, c'est l'engagement, c'est la consécration. Le vrai amour, c'est toutes ces choses-là. Et le Seigneur nous invite à nous rappeler cette position. Nous sommes au centre du projet de Dieu. Oui, même quand il y a des épreuves, parce que quand on lit ce verset, le verset 28, « Toutes choses concourent à notre bien », c'est quoi toutes choses? Est-ce que c'est que les bons moments de la vie? Toutes choses concourent à notre bien. Oui, c'est que les bons moments de la vie qui concourent. Non, on le sait très bien que c'est pas ça. Et si vous croyez que c'est ça, non, c'est pas ça. Il y a les bons moments, oui, mais il y a aussi les mauvais. Il y a des moments difficiles. Il y a des moments où on n'en peut plus. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu va employer comme ingrédient les moments difficiles, les épreuves, et les moments de bonheur, tout ça pour en faire ressortir sa gloire dans notre vie. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme quand on prépare un gâteau. J'avais cette image en tête. Vous aimez manger des gâteaux, les bonnes pâtisseries, bien faites. Moi, j'aime bien ça. Et vous avez déjà essayé de manger la farine toute seule, ou les œufs crus, ou la levure, tout seul comme ça. Est-ce que c'est bon? Bon, le sucre tout seul ou le sucre glace, ça peut passer. Vous voyez, c'est l'image des moments difficiles, ça laisse un goût amer, et les moments, les bons moments, le sucre. Mais quand on met tout ça ensemble, quand on fait passer tout ça dans le four, qu'est-ce qu'il en ressort? Un bon gâteau. Et le Seigneur, il fait exactement pareil dans nos vies. Des fois, nous, on se contente de goûter la levure toute seule. Ça laisse un goût amer, l'épreuve, quand on y goûte à ça tout seul. Mais quand on réalise qu'on est au centre du projet de Dieu, que Dieu, il est en train de faire concourir toutes choses à notre bien, alors il y a une foi, alors il y a une confiance, alors il y a une paix qui est là dans notre âme. Peu importe les circonstances, parce qu'on sait que Dieu, c'est un excellent cuisinier, que Dieu, c'est un excellent pâtissier dans le domaine de glorifier son nom dans nos vies. Paul nous dit, nous savons du reste. Et c'est important que ça soit pas seulement une pensée intellectuelle. Nous savons, oui, je connais ce verset par cœur, toutes choses concourent à notre bien. Mais c'est pas ça qui est dit. C'est quelque chose qui doit être gravé en nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une épreuve, je dois me souvenir que toutes choses concourent à mon bien et je dois m'efforcer d'aimer le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. C'est ça que ça veut dire. Et quand je le fais, alors j'ai l'assurance dans mon cœur. J'ai l'assurance que Dieu s'occupe de mon cas. Il y a une histoire qui est racontée par rapport à un naufrage où il y a eu un seul survivant. Et ce survivant, il a réussi à nager, il a réussi à tomber, à échouer sur une île qui était inhabitée. Et il a prié, parce qu'il était croyant, il a prié pour que Dieu le sauve. Et il a attendu, et ça a commencé à passer les heures, ça a commencé à passer les jours. Rien ne s'est passé. Et il priait à chaque fois, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, je sais que tu peux me sauver. Rien ne se passait. Alors il a commencé à faire avec des instruments de fortune, il a essayé de bâtir une petite maison, une petite hutte pour s'abriter des éléments, parce que c'était dans le Pacifique, il y avait des tempêtes et tout ça, de la pluie, donc il s'est abrité. Et puis il avait réussi à faire du feu aussi. Et puis un jour qu'il était parti chasser, parce qu'il fallait bien nourrir l'estomac, il est revenu et la maison, elle était totalement détruite par la flamme. Elle était en cendres, la maison. Et là, il a commencé à lever le poing vers le ciel. Et il a commencé à dire, mais Seigneur, comment tu peux me faire ça? Mon Dieu, je te demande de me sauver et toi, tu permets qu'il y a des choses comme ça qui arrivent dans ma vie. Et alors, il était là en train de dans la tristesse, dans le désespoir. Il pensait qu'il voulait se supprimer. Et il s'endormit dans tous ces sentiments-là. Et puis, à un moment donné, il sent quelque chose. Il se réveille et puis il voit qu'il y a des personnes qui sont là. Et vous savez ce qu'il leur a dit? Comment avez-vous su que j'étais ici? Et ils ont dit, on a simplement vu le signal fumé que vous nous avez envoyé. Quand on ne sait pas comment les choses se passent, quand on ne comprend pas le pourquoi des choses difficiles, Dieu, lui, sait parfaitement. Et quand on lui demande de nous secourir, de nous aider, Dieu, il fait concourir toutes choses à notre bien. Et le but de tout ça, c'est pas qu'on ait la prospérité financière, qu'on ait une parfaite santé. C'est pas ça le but. Mais si vous lisez bien ce texte, vous verrez que le but final, c'est que nous ressemblions tous à Jésus-Christ dans notre caractère. Est-ce qu'il y a du travail pour ça? C'est pour ça que Dieu envoie des épreuves, parce qu'on est loin de ressembler à Jésus-Christ encore. Et on a besoin de passer par tous ces moments-là qui nous permettent de grandir, qui nous permettent d'avancer, qui permettent à Jésus de se glorifier dans notre vie. Plus nous avançons, plus nous ressemblons à Jésus-Christ. Oui, Seigneur, répands ton amour dans mon cœur par ton Saint-Esprit. Et je veux réaliser que je suis au centre de ton projet. Je veux rester au centre de ton projet. Je veux pas m'occuper des choses de cette terre. Bien sûr, il y a des choses qui sont importantes à faire. Il faut tous qu'on travaille, il faut tous qu'on s'occupe de nos familles, etc. C'est pas ça dont je parle, mais je veux mettre la priorité sur Dieu. Je veux m'affectionner aux choses de l'Esprit afin que je sois au centre de ce plan de Dieu pour moi. La deuxième preuve de l'amour de Dieu, c'est que Dieu déploie sa puissance pour nous. Regardez ce qu'il est dit au verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est quoi les choses dont il est question? Est-ce que c'est les épreuves là? Ben non. Cette fois-ci, c'est pas les épreuves. Dieu va nous donner toutes choses, ça veut dire qu'il va nous donner toutes les bénédictions dont on a besoin dans l'épreuve, dans le moment difficile, dans le moment où on est affaibli, il va nous communiquer la force. Dieu va nous faire grâce. Et quand on regarde autour de nous, quand on écoute les témoignages des uns et des autres, vous êtes comme moi, depuis le début de l'année, moi j'ai le cœur qui bouillonne parce que je suis béni d'entendre les témoignages de ce que Dieu fait, d'entendre des gens qui sont guéris, d'entendre des gens qui sont délivrés de la cigarette, des gens qui vivent des expériences avec le Seigneur. Ça fait du bien, ça fortifie la foi. Mais combien de fois on a vu des gens qui vivent une délivrance, qui vivent une expérience avec Dieu, et qui, une fois qu'ils ont obtenu, il n'y a plus personne. Vous avez déjà vu des gens comme ça? Combien c'est triste. Et combien c'est douloureux quand on voit, quand on assiste, on voit la délivrance, on voit les progrès, et puis on voit qu'il n'y a plus rien après. Mais il y a la grâce de Dieu qui est là. On sait que notre Dieu, il fait grâce. Dieu, il ne se repent pas de son appel et de ses dons. Il ne se repent pas de ce qu'il donne. Mais la question qui se pose ici, c'est cette question-là. Est-ce que Dieu est pour moi? Oui. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas pour nous? Dieu, il est pour tous les hommes, je le disais, mais on peut passer à côté de la volonté de Dieu. Dieu a dressé une table en face de nos adversaires, mais c'est à nous de venir prendre sur la table ce dont on a besoin. C'est pas Dieu qui va nous forcer. C'est pas Dieu qui va vous forcer à lire la Bible le matin. J'ai essayé, ça marche pas, hein. J'ai demandé, Seigneur, oblige-moi à, je veux me réveiller tous les matins pour lire ta parole. Mais Seigneur, c'est toi qui dois me le faire. Mais ça marche pas comme ça. C'est moi qui dois me lever pour lire. C'est moi qui dois me lever pour prier. Et quand je le fais pour obéir à la parole de Dieu, mais Dieu, il vient me rencontrer. Dieu, il me donne tout ce qu'il a prévu. Il me donne toutes ses grâces. Il me communique tout ce dont j'ai besoin. La main de Dieu, elle est puissante. J'aime cette expression, je la répète souvent. Mais plus je la répète, plus je la réalise. Que la main de mon Dieu, elle est puissante. Quand je vois des gens qui sont guéris, quand je vois des gens qui sont délivrés d'un fardeau qu'ils ont là. Et malheureusement, je vois aussi d'autres personnes qui, ça fait des années et des années. Je parlais récemment à quelqu'un, je vous citerai pas les détails, mais ça fait au moins 50 ans, si c'est pas 60, qu'elle porte un fardeau et qu'elle a jamais pu l'exprimer. Mais Dieu, il a permis que ces choses se fassent pour que le fardeau s'en aille. Parce que c'est ça notre Dieu. Des fois, il n'y a pas besoin d'attendre 50 ans, mais moi je vous encourage à pas attendre. Mais si vous avez un fardeau, à le déposer au pied du Seigneur. Des fois, le faire de manière personnelle, c'est difficile, on a besoin de parler avec quelqu'un. Mais le rôle du pasteur, il est là, de pouvoir aussi vous aider dans cette démarche de déposer votre fardeau. Parce que mon désir, c'est de vous aider. Mon désir, c'est que la main de Dieu puisse se poser sur votre vie pour vous relever, pour vous enlever tout ce qui pèse. Parce que le Seigneur est celui qui a cette main puissante. La puissance de son amour se manifeste dans notre vie. Regardez, il est détaillé rapidement ce que Dieu veut donner face au poids de notre péché. On le sait, il a donné son Fils. Mais face à des pensées d'accusation, on est tous dans ces moments-là où on a des pensées qui nous accusent, la culpabilité. Dieu nous donne d'être justifiés. C'est ce qu'il est dit, hein. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Des fois, on nous condamne, des fois, on nous juge, parce qu'on juge, les hommes jugent par rapport à l'apparence. Même des chrétiens jugent à l'apparence. Mais qui nous condamnera? Christ est mort pour nous. Bien plus, il est ressuscité. Et ça s'arrête pas là. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous êtes heureux de savoir que Jésus intercède pour vous? Est-ce qu'il intercède bien? Ben, c'est le meilleur. C'est le meilleur de tous. Et s'il y a bien un exemple qu'on doit prendre par rapport à l'intercession, c'est Jésus. Jésus intercède en notre faveur. Et quand on est dans cette condamnation, l'ennemi met sur notre âme des pensées noires. Quand on est dans ces moments où on est désespéré, alors qu'il n'y a rien de spécial qui s'est passé, la veille, tout allait bien, aujourd'hui, on est dans le désespoir. Mais le Seigneur est celui qui veut nous montrer qu'il est là, qui intercède en notre faveur, qui nous fait du bien. Il nous a donné un de ses dons, c'est le Saint-Esprit. Regardez ce qu'il est dit au verset 26. Je reste dans ce chapitre 8. C'est pas compliqué ce matin. À la maison, vous relirez tout le chapitre et vous comprendrez ce dont il est question. Mais au verset 26, regardez le don, la puissance du Seigneur. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. On a parlé de Jésus qui intercède dans le ciel, mais il n'est pas tout seul, Jésus. Il y a aussi le Saint-Esprit qui est en nous, qui intercède. Est-ce qu'il intercède bien, le Saint-Esprit? Mais de toute façon, Jésus et le Père et le Saint-Esprit, ce sont une personne. Et on sait qu'ils intercèdent de manière divine, la manière qu'il le faut pour que Dieu exauce. Et notre faible prière, notre faible intercession, quand elle s'associe à ce duo de prières qui est là autour de nous, eh bien, ça va amener la bénédiction. Quand on est faible, combien c'est bon de prier, et de prier particulièrement par le Saint-Esprit, comme il est question dans ce passage. Je vous ai déjà raconté, mais je trouve que c'est une bonne illustration, ce moment où ma grand-mère, elle était pendant la nuit en train de dormir, et puis tout d'un coup, elle s'est réveillée. Et puis, il savait qu'il fallait qu'elle prie, mais elle ne savait pas pourquoi il fallait qu'elle prie. Alors, elle a prié en langue, tout simplement. Elle a prié par l'esprit, et elle a prié, et à un moment donné, elle savait que c'était bon, il fallait qu'elle arrête. Et le contexte de cette histoire, c'est que mon oncle, il était parti en voyage scolaire, en Espagne. Et le soir, ils avaient, avec les copains, ils avaient traîné un petit peu tard dans un quartier qui n'était pas terrible, et ils ont rencontré quelqu'un qui a voulu les dépouiller. Et il a commencé à sortir son argent et tout ça. Et puis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, le gars qui était en face, il est parti. Il s'est enfui. Et puis mon oncle, il a rappelé le lendemain matin ma grand-mère. Et ma grand-mère lui a dit, mais c'était à quelle heure que ça s'est passé, ton truc? Il lui a dit l'heure, et c'était exactement l'heure à laquelle elle était en train de prier pour lui. Et le monsieur qui est parti, c'était au moment où elle a arrêté de prier. Quand on prie selon l'Esprit, Dieu vient nous aider par rapport à notre faiblesse. Est-ce que il y a des moments où vous vous sentez faible dans la prière? Ça vous arrive? Moi, ça m'arrive de me sentir faible, de dire « Seigneur, je peux rien ». Mais tant mieux. C'est quand je suis faible que je suis fort, nous dira Paul. Et quand je suis faible, je sais que j'ai le don du Saint-Esprit qui peut m'aider à prier de manière incroyable, sans que mon intelligence travaille, parce que je ne sais pas pourquoi prier. Mais le Seigneur qui me connaît, qui m'aime, me communique sa puissance pour que je sois un intercesseur qui est exaucé. Voilà le plan du Seigneur pour nous. S'il a donné son Fils, est-ce qu'il ne va pas nous donner toutes choses? Est-ce que c'était dur à Dieu de donner son Fils? Est-ce que ça serait dur pour nous de donner notre Fils? Il y en a qui ont des enfants, hein? Est-ce que vous le donneriez facilement, votre Fils, en sacrifice? Personne ne ferait ça. Dieu l'a fait. Et s'il l'a fait, s'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'était le témoignage qui rendait de Jésus. Enfin, il y avait un homme qui ne péchait pas. Enfin, il y avait un homme qui n'avait pas de paroles mauvaises. Mais c'est cet homme-là qui était le Fils de Dieu qui l'a donné pour que nous puissions être sauvés. Alors, s'il a fait ça, est-ce qu'il ne va pas nous donner tout ce dont on a besoin par la suite? Pourquoi est-ce que Dieu s'acharnerait à donner son Fils pour après nous dire « Bon, mais maintenant tu te débrouilles ». Non, non, Dieu n'agit pas comme ça. Il nous a prouvé son amour, mais il veut encore nous prouver son amour par sa puissance. Et je termine avec ce passage, c'est le verset 37. « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Vous avez remarqué, la langue française, elle est précise quand même. Il aurait pu être dit, ce verset, il aurait pu être raconté de manière différente. Mais ça a été écrit de cette manière-là. Il n'est pas dit, après toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous, on aimerait bien que ça soit comme ça. Seigneur, une fois que j'aurai remporté la victoire dans mon épreuve, je vais être vainqueur. Il est dit, dans. Dites-le avec moi, dans. Dans toutes ces choses. Dans les épreuves. Dans les difficultés, je suis plus que vainqueur. Voilà le secret du bonheur. Le problème de notre terre, le problème de notre monde, c'est qu'on veut être vainqueur. On veut que les épreuves passent. On veut pas des épreuves. On croit que c'est ça qui va nous apporter le bonheur. Mais le vrai bonheur sur cette terre, c'est justement C'est d'avoir la foi, la confiance dans la présence de Dieu au travers de son amour. Voilà pourquoi il est dit que rien ne pourra nous séparer de son amour. Il n'y a aucune épreuve qui sera trop difficile pour que l'amour de Dieu vienne nous rejoindre à ce moment-là. Et vous pouvez là refaire référence à la semaine dernière, ce moment où Jésus venait nous rejoindre par sa présence, mais c'est exactement ce que Dieu veut faire. Il y a ce verset qui est là. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Les fleuves ne peuvent le submerger. L'amour de Dieu est tellement grand que peu importe le flot d'épreuves et de difficultés qui viennent sur nous, rien ne peut éteindre l'amour de Dieu en notre faveur. Le Seigneur veut toujours manifester sa présence dans ces moments-là. Et quelles sont-elles ces choses dans lesquelles Dieu veut se manifester? Il y a une liste qui est donnée au verset 35, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Vous aimez bien passer par ces moments-là? C'est pas des choses qu'on apprécie forcément. Mais même dans toutes ces choses, et l'apôtre Paul savait de quoi il parle, puisque lui, c'est une liste qui il dit, tiens, qu'est-ce que j'ai vécu la semaine dernière et l'année dernière? Et il a fait juste un listing de ce qu'il avait vécu. Mais dans toutes ces choses, il a été plus que vainqueur. Et aujourd'hui, on pourrait mettre d'autres noms sur cette liste. La dépression, le couple qui va mal. On peut mettre toutes sortes de choses difficiles qu'on peut rencontrer. Les relations familiales qui sont brisées, parents-enfants. Le contexte du travail qui est difficile. Mais l'apôtre Paul nous rassure en nous disant, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il y a l'amour de Dieu qui est présent. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons rester à vivre une vie chrétienne où nous nous affectionnons de temps en temps aux choses de l'esprit, de temps en temps aux choses de la chair, où nous voulons avoir cet amour entier pour le Seigneur et savoir que nous sommes au centre de son amour, au centre de ce plan. Nous savons que sa puissance, elle est pour nous, pour se déployer. Je bénis le Seigneur quand je vois des gens qui font confiance à Dieu et même si ça tarde à venir, à un moment donné, la puissance de Dieu se manifeste. Et je bénis le Seigneur aussi pour les gens qui, dans l'épreuve, ils restent fidèles. Dans l'épreuve, ils sont vainqueurs, ils sont une bénédiction pour les autres. Ils ont une parole d'encouragement. Dans l'épreuve, ils accompagnent ceux qui souffrent, alors qu'ils sont en train de souffrir. Peut-être qu'ils ne montrent pas, parce qu'ils ont cette discrétion de cœur, mais parce qu'ils ont compris que nous sommes plus que vainqueurs par le Saint-Esprit, par l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit.